Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Pourchassés.
Vous savez, colonel, on a eu beaucoup de mal à vous trouver.
Ils ont assassiné ses amis. Et ils lui ont pris la seule chose pour laquelle il tuerait.
Si vous voulez revoir votre fille, il va falloir vous montrer coopératif. D'accord?
Non! Maintenant, il ne sait pas où, il ne sait pas comment, mais quelqu'un doit payer.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif, signé 7ème Dimension. Donc, ben, ça fait un petit moment que j'avais pas parlé dans ce micro, et je pense que je vous manquais un petit peu, et ouais, avec ce dernier confinement, autant vous dire que dans les activités pro, ben, j'étais submergé. Bon, voilà, il y en a où ils sont pas submergés. Moi, ça a été le cas, donc j'ai mis un petit peu en veille 7ème Dimension, et je reviens quand même parce que je vous avais promis ce podcast dédié au commando de Mark Lester. Alors, ce podcast-là, c'est vous qui avez voté en fait, hein. Vous aviez, moi je voulais boucler un petit peu ces vérifs dédiés au cinéma d'action avec un représentant indiscutable du genre, donc il y avait le choix entre le Invasion USA de notre ami Chuck Norris, on avait droit à Piège en haute mer avec Steven Seagal, ou bien Commando avec Arnold Schwarzenegger, et autant vous le dire, personne s'est positionné sur ce bon vieux Steven Seagal. Voilà. Je pense qu'en même temps, ses dernières révélations sur sa vie personnelle ont joué contre lui, mais pourtant, on aime bien aussi le côté bourrin de l'ami Steven, notamment les Désignés pour mourir, Justice sauvage, et bien entendu Piège en haute mer. Donc au final, personne n'a voté pour lui, et on s'est retrouvé en fait avec Chuck Norris qui collait un petit peu au basket de Schwarzenegger, mais c'est Schwarzenegger qui a remporté haut la main en fait les votes pour, alors vous étiez pas non plus des millions à voter, hein, faut pas s'emballer, mais en tout cas c'est bien le commando de Schwarzy qui a remporté en fait ce vote haut la main, et j'en suis très content. Alors c'est pas tout à fait une vraie vérif, parce qu'autant vous le dire, commando, je crois que je me le regarde assez régulièrement chaque année, donc, mais bon, ça m'a permis quand même de vérifier certains bonus que j'avais pas regardé jusqu'à présent sur cette édition Director's Cut édité par 20th Century Fox il y a déjà quelques temps, et donc on va dédier ce numéro entier au commando de Mark Lester. Alors ce qu'il faut savoir avec Commando, c'est que comme les American Ninja, c'est un petit peu le film de mon enfance, donc autant vous dire que quand je regardais ça quand j'étais mioche, moi le métier que je voulais faire plus tard, c'est le métier de Schwarzenegger, c'est-à-dire un métier où t'as une maison, t'as un digicode, t'appuies sur le digicode, t'as plein d'armes, et tu débarques sur une île et tu extermines en fait des vilains terroristes. Je trouvais que c'était génial, voilà. Donc, avoir des missions, voilà. Donc, ce film Commando, bah, il a bercé mon enfance, une enfance déviante, apparemment, parce que voilà, c'est pas tous les gosses qui ont envie d'aller exterminer des gens, on va dire, à l'autre bout du monde, avec tout un arsenal militaire, mais voilà. Donc ça, c'est un film qui fait partie de mon enfance, c'est une affiche de fou furieux, Donc voilà, faut voir ce bon vieux Schwarzy là, posé sur fond noir avec le regard ultra bourrin, avec du camouflage partout sur le corps, et voilà, le truc s'appelle Commando là. Là tu sais que quand tu vas regarder ce film là, il n'y aura pas d'arnaque. Enfin, c'est pas possible. Donc, on l'aura compris, ce film là, c'est un véhicule tout entier dédié à la gloire d'Arnold Schwarzenegger. Donc on est en 1985, on est au début de carrière de Schwarzenegger, et ce qui est fou avec Commando, c'est qu'il livre le film terminal du genre. Voilà, c'est-à-dire que c'est son troisième gros succès, et c'est le film terminal du genre. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre avec Commando, c'est que il n'y a pas mieux. C'est, voilà, en termes de film d'action, je pense qu'il est au genre action ce que Braindead de Peter Jackson est au film gore. Voilà, c'est le film ultime. Donc, on ne peut pas s'y tromper, parce que quand on regarde le revival qu'a connu ce genre de film de gros bras dans les années 2010 avec le premier Expandables, bah déjà le premier Expandables, il pique plein de choses à Commando. Ne serait-ce que l'avion, déjà, dans un premier temps, voilà, donc ça, un avion très spécifique, hein, donc voilà, il pique ce côté-là, puis le côté aussi terroriste, qui veut, voilà, terroriste latino, qui veut renverser un pouvoir en place, l'île retranchée, fortifiée, etc., donc, déjà, Expandables, voilà, déjà, notre ami Stallone, il y va à fond. Hein. Quand il relance The Expandables, il pille en long, en large et en travers le commando de Mark Lester. Mais revenons à nos moutons, revenons à ce fleuron du genre, au film ultime d'action, voilà. Donc ça, j'insiste là-dessus, voilà, pour moi, Commando, voilà, alors pour certains, ça sera pas défendable, hein. C'est-à-dire pour les cahiers du cinéma, s'ils écoutent ce podcast, ils diront, mais complètement fêlé. Non, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Donc il n'y a même pas à discuter, c'est-à-dire que quand vous regardez le film, que le film vous regarde et que vous le re-regardez à nouveau, vous savez que vous êtes sur une masterpiece, vous savez que vous êtes sur un chef-d'œuvre instantané. Donc Commando, c'est 1985, ça arrive juste après Terminator, je sais pas si vous vous rendez compte, ces années folles quoi, c'est-à-dire vous prenez 84, vous avez Terminator, 85 vous avez Commando, 87 vous avez Predator. Donc déjà, en trois films, Schwarzy, il livre un film ultime dans chaque genre. Voilà. C'est quand même un tour de force. Souvent, on les a comparés à l'époque, on a comparé Stallone et Schwarzenegger. Oui, Stallone à Rambo, à Rocky, pour moi, c'est pas comparable. C'est-à-dire, tu fais la triplette, là. Tu fais Terminator, Commando, Predator, mais laisse tomber, quoi. Voilà. Une fois que t'as fait ça, tu peux aller mourir. Et on oublie aussi, le mec qui commence avec Conan le Barbare, aussi John Milius. Voilà, c'est... Oui, c'est des films de bourrin, mais ça se pose là, quand même. Donc... Ce qu'il faut comprendre avec ce commando, c'est qu'on a plein de gens, voilà, on a plein de gens qui sont aux manettes derrière pour en faire ce chef-d'œuvre instantané du film d'action. Alors c'est tourné premier degré. Alors c'est-à-dire que voilà, Schwarzy, il est monolithique dedans, voilà, il dessert pas les mâchoires, mais après c'est quand même matiné de second degré. Donc c'est tourné au premier degré. Avec des dialogues acérés, donc c'est super bien écrit, c'est génial, on s'éclate. Enfin voilà, moi Commando, limite j'ai envie de vous le conseiller comme film de Noël. Voilà, vous pouvez même faire une triplette, vous faites Commando et la course aux jouets. Il y a deux fois Schwarzenegger hein, dans l'histoire, donc c'est quand même pas mal. Donc on est au sortir de Terminator, et c'est vrai que en 84, 85, on peut encore se poser la question de est-ce que Schwarzenegger est capable de jouer la comédie. Oui, c'est une question qu'on peut même encore se poser aujourd'hui, hein, à laquelle on peut répondre plus facilement. Mais à l'époque, voilà, Schwarzenegger, c'est Monsieur Univers. C'est, voilà, faut voir ses bras. Aujourd'hui, en termes de comparatif, on a The Rock. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas The Rock, c'était Schwarzenegger. Hein. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on le surnommait le chêne autrichien. Voilà. Donc Schwarzenegger, c'est un acteur tout en muscles, donc ça va bien avec le personnage de Conan, ça va bien avec le personnage du robot exterminateur dans Terminator, et du coup, voilà, on essaye un peu de varier les plaisirs. Donc voilà, il a fait le robot exterminateur, voilà, il a fait le barbare, bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh ben, l'ex-militaire à la retraite, voilà. Donc, dites-vous qu'en termes de scénar, ça tient sur un ticket de métro,
Voilà, c'est pas le scénario le plus développé du monde, mais c'est tellement fait avec plaisir, et il y a une telle connaissance des ficelles du film d'action, que oui, ça en fait un plaisir de tous les instants. Donc, du coup, on a à la production l'un des producteurs que je préfère au monde, qui est Joel Silver. Alors Joel Silver, je l'aime beaucoup, parce que déjà, aller faire un tour un petit peu sur le wiki et regarder un peu les photos d'époque, c'est un mec, il a la banane. Voilà, c'est le producteur nabab qui a la banane et qui a des chemises hawaïennes sur les tournages et le barreau de chaise dans la bouche. Voilà, ça fume du cigare, ça a des chemises hawaïennes, voilà, le mec s'éclate et il est quand même derrière les plus gros coups en termes de films d'action des années 80. Donc on lui doit quand même la saga L'Arme Fatale et un paxon de films derrière. Il a même eu du nez par moment, même s'il a rien compris. Donc je vous conseille de regarder les bonus du premier Matrix, donc notamment The Matrix Revisited, donc où il y a la prod, hein, le Joel Silver aussi, voilà. Donc où il t'explique, comme Lorenzo di Bonaventura à Warner, voilà, qui t'explique qu'ils ont pas trop compris, ils savaient que c'était intelligent et que c'était pas mal. Voilà, moi je l'aime bien. Voilà, Joel Silver, il est en place. Voilà, arrangé aux côtés des Jerry Bruckheimer, Don Simpson, etc. Voilà, ce genre de producteurs-là, qu'on n'a plus trop aujourd'hui. Hein. On peut faire une petite parenthèse aussi, quand on voit la production SVOD de Netflix, on sent qu'il n'y a pas de prod hein, derrière. On sent qu'il n'y a pas de vision. Voilà, on sent que les cinéastes sont en roue libre, qu'il y a une formule, mais que voilà, il n'y a plus de prod aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est produit par Joel Silver, futur producteur de Piège de Cristal aussi, on le rappelle. Hein, donc c'est produit par Joel Silver et il y a une volonté assez rapidement de mettre en branle un nouveau véhicule pour Schwarzenegger. Donc on a un petit script qui est sur la table, donc écrit par Joseph Leb et scénariste, mais surtout aujourd'hui reconnu comme scénariste de bande dessinée, mais il sera le scénariste de Teen Wolf. Sortira à la même époque. Bon, c'est un AV rigolo, Teen Wolf, et même du 2 aussi. Mais ce scénario sera repris en main par un nom de l'époque aussi, une plume de l'époque, qui est Steven E. De Souza. Et Steven E. De Souza, voilà, on avait déjà pu voir son talent d'écriture à l'œuvre sur le 48 heures de Walter Hill, l'un des fleurons du buddy movie des années 80. Voilà. Donc, mettant en scène, bien entendu, Eddie Murphy et Nick Nolte. Donc, on a le scénariste de 48 heures et futur scénariste aussi de Piège de Cristal. Voilà. On a déjà quand même une équipe à la prod qui est en place. Voilà. Donc, on a cette volonté de Steven E. De Souza, Joel Silver, voilà, de mettre les petits plats dans les grands pour faire un bon putain de morceau de film d'action. Voilà. Ils se mettent, alors parce que c'est souvent que si vous regardez les bonus, bon c'est pas très intéressant, mais bon ça apprend un petit peu le fonctionnement d'Hollywood, donc si vous regardez un petit peu les bonus de cette édition de Commando, voilà, vous avez un petit bonus de 15 minutes où on y voit le réalisateur Mark Lester qui explique qu'il a été engagé lors d'une soirée, voilà, d'une soirée organisée par Joel Silver, c'est à peu près comme ça que ça se passe, voilà. Donc du coup, Joel Silver va chercher Mark Lester. Et Mark Lester, bah, on l'aime beaucoup à 7ème dimension. Pourquoi ? Parce qu'il nous a offert du bourrinage pelliculé, en veux-tu, en voilà. Déjà, le mec, en 82, il te fait Class of 84. Alors, Class of 84, dans le genre Vigilante Movie, ouais, Vigilante Teen Movie, ça se pose là. Moi je kiffe, voilà. Il a été réédité il y a un peu plus d'un an dans une jolie collection collector Blu-ray par ESC. On en reparlera de Class of 84. Donc Class of 84, ça se pose là. Réalisateur aussi d'une adaptation d'un livre de Stephen King qui est Charlie, qui s'appellera Firestarter avec Drew Barrymore. Et réalisateur aussi de Class of 99. Voilà. Donc parce que forcément, Class of 84, c'est bien. Bon, on prend la même chose, on prend ce côté vigilante movie dans le milieu professoral, voilà, dans un lycée, puis on le transpose en mi-post-nuke, mi-film de cyborg, où les profs sont remplacés par des cyborgs. Voilà, c'est génial. Donc Class of 99, aussi sorti chez ESC en édition collector, on en reparlera, on fera un diptyque, je pense, on fera une vérif spéciale Class of. Et réalisateur aussi d'un très très bon fleuron du genre avec Dolph Lundgren. Voilà, Dolph Lundgren en blond cette fois-ci. Ben oui, parce que certains ne le savent pas, mais Dolph Lundgren à l'époque tournait à la fois brun et blond. Voilà, donc brun ça donne Dark Angel et The Punisher, et en blond ça donne Dans les griffes du dragon rouge. Voilà, une superbe réalisation signée Mark L. Lester. Donc, Mark Lester,
Voilà, bah tu l'aimes d'amour, parce que c'est réalisateur de Class of 84 et de Commando, et que même s'il a fait de la merde derrière et qu'il a jamais confirmé, voilà, son dernier film c'est Pterodactyl, voilà, donc une production sci-fi, donc je même pas m'épancher là-dessus, mais déjà le mec il a fait ça, donc déjà total respect. Donc on a une triplette, Steven De Souza au scénario, Joel Silver à la prod, Mark Lester à la réal, on a l'argent de la Fox, que demande le peuple. Donc du coup on fait lire le pitch, voilà, Steven De Souza va pitcher à Schwarzy, et Schwarzy est très content parce qu'il est, c'est pas un robot, voilà, c'est pas non plus un barbare, il est un bon père de famille, et on lui enlève sa fille, et du coup eh ben, il va se venger et essayer de retrouver sa fille. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que ça lui donne un postulat. Voilà, ça c'est bien, ça peut justifier toutes les conneries et toute la violence qui va arriver par derrière. Donc voilà pour le pitch du film. Donc Schwarzenegger, barreau de chaise à la bouche, il se dit « Ouais, c'est génial, allez on y va ». Voilà. Donc, ce fabuleux scénario, qu'est-ce que ça raconte ? Voilà. Donc, ça raconte l'histoire de John Matrix, voilà, qui vit paisiblement dans la forêt. Voilà. Donc, dans une forêt, dans un coin reculé, voilà, dans les montagnes du Nevada ou je ne sais quel recoin en fait, voilà, des États-Unis. Donc, il vit isolé et il s'occupe tout seul de sa petite fille. Voilà. Et cette petite fille, elle est incarnée par Alyssa Milano. Voilà. Alors les vieux qui écoutent ce podcast, quand on dit Alyssa Milano, ils se disent « Ah, c'est la Samantha de Madame est servie ». Et les plus jeunes, ils se disent « Alyssa Milano, Alyssa Milano, ah, mais c'est la MILF de Charmed ». Voilà, vous voyez ? Donc vieux, jeunes, etc. Si vous voulez la connaître d'une autre manière, Alyssa Milano, moi je pense que sur Google, hein, vous tapez « Alyssa Milano, Embrace the Vampire », vous verrez, les photos sont sympas. Voilà. Donc du coup, sa fille est incarnée par Alyssa Milano, voilà. Alors le film commence, il n'y a pas de maman dans ce film-là. Alors, du coup, dans la version d'origine, donc qui n'est pas la Director's Cut, alors je vous rassure, hein, la différence entre la Director's Cut et la version vue par tout le monde à l'époque, c'est 1 minute ou 1 minute 30, montre en main, de dialogue entre Redon Chang et Arnold Schwarzenegger. Donc, c'est-à-dire, pas grand-chose est dispensable. Mais ça répond à la question de où est la maman. Mais on va rester au début. Donc, on a ce gros musculeux, voilà, qui élève sa petite fille tout seul, mais on sait déjà qu'il est pas là pour déconner. Pourquoi ? Parce que dès les premières minutes, voilà, on alterne moment de la honte dans une relation père-fille. Ouais. Imagine, voilà, Schwarzenegger qui rigole, voilà, et qui se prend une glace sur le nez, etc. C'est too much. Ça participe aussi à certains côtés Z, hein, de ce film-là. Mais bon, t'y crois pas une seule seconde. Voilà, t'y crois pas une seule seconde. Mais dans ces premières minutes, tu vois aussi autre chose. C'est-à-dire que le mec, bah, il coupe des arbres, voilà, à la hache, puis il porte l'arbre. Voilà. Déjà, d'entrée de jeu, dans les premières minutes, t'as une scène où voilà, qui est filmée comme un western, voilà. Tu sens déjà tout le projet, voilà, dans ces quelques plans. Donc ça arrive, tu vois ce mec-là couper un arbre et porter l'arbre, voilà. Il porte l'arbre sur l'épaule, voilà. Donc bien entendu, tu te dis oui, c'est too much, mais tu à l'époque quand t'es minot, tu te dis waouh, ça c'est un truc de malade. Tu sais, ça rappelle un petit peu, vous savez, ces chamailleries dans la cour de l'école. Ouais, mais moi, mon père, il est plus fort que le tien, et mon père, il va... Voilà. Là, son père, il porte un arbre. Voilà. Donc, je pense qu'il a gagné. Voilà, lui, il a gagné. Donc, il porte un arbre, et ça pose un petit peu le postulat. Tu sais que, tiens, voilà du bourrin. Voilà, tu sais ce que tu vas avoir. Bon. Après, sa fille essaye d'arriver en douce, il y a un petit mystère, et s'enchaînent les moments un peu Z, hein, de la relation père-fille. Mais bon, globalement, t'as tout le projet du film en quelques plans, et ça c'est génial. Donc il vit tranquille, il coupe des arbres, etc. Il élève sa fille, voilà, il se permet quelques petites remarques complètement, mais alors ça c'est l'époque, complètement mais extrémistes sur Boy George, voilà. On devrait l'appeler Girl George, bon ça fait partie du charme du film de l'époque, voilà. Donc, et là, arrive un hélicoptère. On n'a pas passé les 10 minutes de métrage. Arrive un hélicoptère, bon, si t'as vu Rambo, voilà, tu connais l'histoire, c'est l'équivalent du colonel Trotman qui arrive. Voilà, colonel Jack Kirby. Donc il arrive, voilà, et là, t'apprends un petit peu le nom du personnage. John Matrix. Ça s'invente pas, John Matrix. Voilà, ça se pose là, voilà. Donc en plus de porter des arbres, voilà, sur son épaule, il a un nom qui envoie. Voilà. Je pense aussi que c'est l'équivalent de Vin Diesel. Voilà, donc John Matrix. Donc le général Kirby arrive et explique à John...
que tout, il vous révèle son passé en fait, ce qui deviendra, le passé militaire, le cliché de tous les films de Steven Seagal. C'est-à-dire que le mec a un vieux passé. Voilà. Il est le super, super, super agent des forces super secrètes spéciales de la mort qui tue. Voilà. Donc lui, donc le général arrive et il lui explique en fait que toute son unité s'est fait dessouder. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans les quelques premières minutes. Vous avez vu des bad guys aller dessouder un vendeur de voitures d'occasion, aller dessouder un pauvre mec qui était au lit avec sa femme. Voilà. Donc au moment d'aller chercher son journal, il se fait défoncer. Et c'est aussi un autre personnage, voilà, incarné par Vernon Wells, on en reparlera. Voilà, une espèce de bon vieux loup de mer, pêcheur, voilà, qui se fait exploser dans son bateau. Voilà. Donc ça, c'était l'unité de John Matrix. Et donc, Général Kirby, j'ai pris un petit peu le résumé à l'envers, mais vous avez l'habitude à 7ème dimension, c'est la passion, tout ça, on est dans l'effervescence, on y va, quoi, on n'a pas peur. Hein. Donc, et Général lui explique voilà, que bon, son unité se fait défoncer, donc voilà, alors là, du coup, ils discutent, et ils mettent tous les clichés sur la table. Ah mince, est-ce que c'est les Syriens, est-ce que, voilà. Ça, c'est des clichés aussi, voilà, c'est un peu comme, voilà, tu te souviens, l'Afghanistan, non, c'est mieux que le Vietnam, etc. Voilà. Donc voilà, ils savent pas trop qui c'est, ces terroristes. Que Gérald Kirby qui sous-entend qu'il a énormément d'ennemis dans le monde, hein, oui, parce que c'était un super agent des forces spéciales. Donc, du coup, il l'informe de ça et il lui dit pour sa propre sécurité, je vais te laisser deux hommes. Bon, t'as un peu vu le mec porter un arbre. Bon, tu vois les deux hommes qui lui laissent, tu te dis bon, que le mec il a pas trop besoin d'hommes pour assurer sa sécurité, mais pourquoi pas. Voilà. Et à ce stade-là, c'est là que ça commence à devenir génial, en fait, dans ce film. On n'est même pas aux 20 minutes du film, c'est là que ça commence à devenir génial. C'est que John Matrix, il est plus fort que n'importe quel super-héros Marvel. Donc déjà, lui, avec le vent, il arrive à détecter la présence de quelqu'un. Voilà. Donc, à ce moment-là, Gérald Kirby s'est barré, genre, allez, une minute montre en main, les méchants se pointent, et ils s'en prennent aux deux militaires qui sont restés sur place en faction. Voilà. Mais John Matrix, lui, on la lui fait pas. Il les a vus arriver. Voilà, il les a entendus avec l'oreille. Voilà. Il les a entendus tel un putain de loup-garou, voilà, qui a entendu bouger une branche à l'angle. Donc il les entend. Donc voilà, il évite les balles, etc. Fait quelques roulés-boulés. Et puis il en profite aussi à expliquer à un GI qui était là pour le sauver, voilà, qui s'est fait défoncer. Il lui explique, voilà, il lui demande comment t'as pas pu les sentir venir. Lui, il les a sentis venir avec le vent, avec le changement de direction. Voilà, il l'informe de quel côté ils vont arriver, en fait. Voilà. Et donc à ce moment-là, t'es à la place du GI, même le GI, il comprend pas ce qu'il lui raconte. Voilà. Et là, le mec, il dit, voilà, John, il dit à sa fille, va te cacher sous le lit. Et là, il fait un truc de dingue. Alors moi, ça m'a marqué quand j'étais minot. Tu vois, il grimpe déjà par le toit. Voilà, le mec est génial. Il grimpe sur sa propre baraque par le toit. Et il monte dans une petite pièce comme ça. Et il va sur un digicode et il appuie. Il ouvre une porte secrète. Et là, t'as 1 million d'armes. T'as de quoi faire la guerre à un pays en entier. Voilà. Et ça, moi, je me rappelle que minot, ça m'avait marqué. Je suis... Oh, peut-être t'avais envie que ton père, il ait ça. Tu sais pas pourquoi, hein, mais c'était génial. Voilà, on est dans les années 80, c'est aussi... On est aux États-Unis, voilà. Donc il y a un mythe aussi, hein, sur l'autodéfense, etc. C'est les années Reagan, donc les westerns, ainsi de suite. Voilà. Mais le mec, il a un paxon d'armes à l'intérieur. Bien entendu, c'est le début du film, il peut pas tous les tuer, sinon il n'y a pas de film. Donc forcément, ils réussissent à lui enlever sa fille. Et il laisse un mec... Il laisse un homme de main lui expliquer la nouvelle. Mec, il est assis tranquille dans la chambre de la gosse. Il a John Matrix. Ouais, il a John Matrix. Le mec porte un arbre. L'autre, il reste assis dans la chambre comme ça. Et il lui demande de coopérer. Et c'est à partir de là qu'apparaissent les punchlines. Alors, les punchlines sont super bien sentis. C'est super bien écrit par Steven de Souza. Et ça permet aussi à notre Autrichien de pouvoir enquiller ses dialogues aussi. Parce que si il a de la punchline... Et des phrases courtes, c'est aussi pour masquer encore son accent autrichien de l'époque. Voilà. Donc, du coup, phrase courte, punchline, ça fonctionne très bien. Vous avez vu l'engin, ça marche. Donc, le mec, il est sur le rocking chair comme ça, et il lui pose une question. Le mec, il lui pose une question en face de lui, il a Schwarzenegger, armé avec un putain d'Uzi, et il lui demande s'il va coopérer. Donc, il lui dit vrai, ben, l'autre, il lui répond faux, et il lui allume la tête. Voilà, basta, c'est posé, on est dans les premières 10 minutes, le cadre est posé, tu sais à quoi t'as affaire. Donc ensuite, Schwarzy descend, voilà, donc il descend de sa baraque, les autres sont partis en caisse, il va voir son 4x4, merde putain, ils lui ont coupé les câbles, le moteur, ce que vous voulez, mais c'est pas un problème ça, Ce n'est pas un problème à ce stade-là du film, ce n'est pas un problème. Donc c'est-à-dire que la voiture ne marche pas, il n'y a pas de moteur, mais c'est pas grave, on va la pousser. Voilà, on va la pousser. Donc il la pousse, il monte à l'intérieur, et puis lui prend un raccourci de malade. Donc c'est-à-dire que quand les ennemis, eux, respectent la route, lui coupe à travers bois et à travers les arbres, hein, rien à foutre. Et il arrive à les rattraper, hein. Puis il a pas les freins non plus, hein, mais c'est pas un problème. Et à ce stade-là, bon, il arrive à récupérer les méchants, bon, il se fait capturer, et c'est là que... Première révélation. Et là, le méchant en chef, le bad guy en chef, c'est un des membres de son équipe. C'était le vieux loup de mer. C'était le mec qu'on se voit se faire exploser dès les premières secondes dans le film. C'est Vernon Wells, dans le rôle de Bennett. Voilà. Donc déjà, c'est nul. Enfin, déjà, c'est nul. C'est génial et nul en même temps. C'est génial parce que c'est Vernon Wells et qu'on va en reparler et qu'il y met tout son cœur, hein, dans son rôle de méchant. Mais c'est nul parce que pourquoi mettre en place un suspense dans les 10 premières minutes si 10 minutes après tu le révèles? Au moins t'aurais pu faire tenir, je sais pas moi, 45 minutes, qui est le grand méchant. Non. Donc en fait ça sert à rien, c'est complètement con. Voilà, c'est complètement con. Mais en même temps, ça se passe, c'est devant nos yeux, et pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, nous voyons donc Vernon Wells. Alors Vernon Wells, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le punk homosexuel et complètement déjanté de Mad Max, le numéro 2. Et il est génial, hein, dans le Mad Max numéro 2. Et donc là, il incarne la némésis du coup de John Matrix, c'est-à-dire Bennett. Et il est affublé. Il a un costume qui est pas possible. Alors déjà, c'est qu'il est un peu gros. Donc ça, c'est un peu con pour un ancien membre des forces spéciales. Bon, vous me direz, il est à la retraite un petit peu. Bon, il y a Schwarzenegger en face. Donc le mec est pas affûté de la même manière. Il est un peu gros. Et il a une moustache. Ah, c'est 70s, quoi. On est en place, quoi. Et il a une tenue. Il a une tenue, on dirait qu'il sort tout droit du bar des Hot Shots, si vous voyez ce que je veux dire, ou des Police Academy. On dirait qu'il sort du bar gay des Police Academy. Il est génial. On dirait un Village People. Donc certains diront qu'il ressemble à Freddie Mercury. Moi, je dirais qu'on dirait un Village People. Il est génial. Donc, il est tout de chaîne et de moustache et de poils, comme vous voulez. Et puis il a un regard et une gourmandise quand il parle à John Matrix. Tu sens déjà, dès premières minutes, qu'il y a un sous-texte qui est autre, mais que personne n'a vu. Hein. Ça me fait penser souvent à cette anecdote sur le deuxième opus des Griffes de la Nuit, le Freddy 2, où ça traite vraiment du coming out, etc. Et que personne n'avait vu à l'époque, mais alors là, on est dans la bromance, hein. C'est Broadback Mountain avant l'heure, hein. Et personne ne l'a vu venir à l'époque. Je sais pas si c'est une volonté, parce que c'est Vernon Wells, hein, qui fait ça tout seul, hein. Voilà, je pense pas qu'on lui a demandé. C'est génial. Il prend énormément de plaisir à torturer, notre ami John Matrix dès les premières minutes. Donc voilà, le plot est posé. Un peu après, on le transporte sur les docks, dans une espèce de hangar, où il rencontre un petit peu toute l'équipe des vilains. Et autant vous dire que dans ce film-là, le casting, il est aux petits oignons. Ah, on a tout le monde. Donc déjà, t'es content, tu vois Dan et Daya. Voilà. Cette bonne vieille trône de Dan et Daya. Dan et Daya, c'est, on va dire, c'est le Mexicain qui joue les... qui joue les Hispaniques, en fait. Voilà, c'est le cliché. Voilà. Donc si t'as besoin d'un méchant, ou d'un terroriste, ou d'un général terroriste, ben voilà, tu vas prendre Dan et Daya. Voilà, donc... Et l'un des hommes... C'est aussi un loup-garou aussi, parce que c'est un homme très très poilu sur les épaules, donc voilà, vous avez pu le voir aussi il y a quelques années dans Alien Resurrection, voilà, notamment ses poils d'épaule aussi, à ce niveau-là. Donc on a cette vieille trône de Dan et Daya, voilà, qui fait toujours plaisir à voir dans le rôle du dictateur bouffon terroriste, comme on peut l'imaginer, et puis les hommes de main. Donc on a fait les présentations avec Bennett, voilà, donc là Bennett, ben là on a John Matrix qui est attaché sur une planche, voilà, donc je vous laisse imaginer, là, il est presque là à lécher son couteau et tout, hein, tellement il est content de voir ça. Hein. Voilà, il est du genre « Oui, oui, John, oui ouais, !» Il en fait des caisses, hein, il est génial. Et là, on retrouve Bill Duke. Enfin, on retrouve. Quand on a vu Predator à l'époque, avant Commando, ben on retrouve Bill Duke. Puis Bill Duke, ouais, c'est le black badass de l'époque, quoi. Voilà, donc Bill Duke, il était présent aussi dans Predator. Et dans Predator, ben, il fait partie de l'escouade du coup de Schwarzy. Donc, mais là, du coup, voilà, c'est un homme de main qui a enlevé sa fille. Donc, on a Bill Duke. Donc, Bill Duke, vous l'avez vu dans énormément de films. Il a cachetonné dans la série Deux flics à Miami. Il a réalisé des épisodes de Deux flics à Miami. Vous l'avez vu partout. Et c'est un réalisateur émérite aussi, voilà, qui a fait un petit renouveau dans les années 90 de la Blaxploitation, notamment avec Seigneur de Harlem, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc il a fait quelques films. Il est équivalent de Mario Van Peebles, voilà, carrière improbable. Voilà, donc à la fois réalisateur, acteur, etc. Donc Bill Duke, une trogne sympathique. On a aussi un petit mec là, incarné par, si je dis pas de bêtises de mémoire, David Richard Kelly. Pareil, un acteur qu'on a vu mille fois partout. Et ce qui est génial, et ça me le refait encore aujourd'hui quand je le revois, c'est que c'est l'incarnation cinématographique d'un des personnages du dessin animé Il était une fois la vie. Voilà, pour les plus vieux, là, si vous avez déjà vu ce dessin animé, c'est disponible maintenant hein, sur les plateformes de VOD. Il est le petit mec horrible. Voilà. Alors souvent, on l'a comparé à Sarkozy, et moi, je trouve que c'est son sosie cinématographique. Ça amène un peu de sel, du coup. Donc on a ce petit mec qui s'appelle Sully. Voilà. Donc on a tout un casting qui est génial. Donc on a Bennett. Voilà, on a Cook, parce que Bill Duke est Cook, le cuisinier, donc il cuisine que dalle, hein. Il se fait cuisiner par contre, mais il cuisine que dalle, donc on a Cook, on a Sully, et on a ce dixième rôle qui est génial aussi, avec son chapeau de paille, qui suit, qui va se faire défoncer dans l'avion par Schwarzenegger, donc là j'ai envie de vous dire, je suis presque dans le commentaire audio quand je vous parle de ce film. Donc voilà, donc le plot est posé, donc il lui demande, c'est complètement con hein, d'ailleurs, il lui enlève sa fille pour l'obliger à aller buter un autre chef d'état pour que Dan et Daya prenne la place du coup de ce général là et qu'il ait plein pouvoir, voilà, truc à la con, voilà, donc pourquoi John Matrix, pourquoi lui, voilà. Et pourquoi pas aussi, hein, voilà. Steven de Souza nous dirait et pourquoi pas, voilà. Donc voilà, il lui demande d'accomplir une mission et que bah, s'il ne le fait pas, bah, ils vont tuer sa fille. Voilà, donc ça c'est le plot de départ. Donc, ce qui se passe, c'est que Bennett et toute sa clique se cassent et il le laisse du coup aux mains d'un autre dixième rôle du groupe. Alors excusez-moi, hein, du coup j'ai pas bien fait mon travail, j'aurais dû me le marquer sur le papier, mais bon, voilà, il monte dans un avion et c'est génial. Et c'est génial parce que le mec a une durée de vie d'à peu près 2 secondes, quoi. Donc au moment où l'avion commence à décoller et que tout le monde le voit Schwarzenegger dans l'avion, et il te fait la prise du sommeil maison, quoi. Voilà. Et il lui met le chapeau de paille sur le visage et il dit Dixit, best punchline ever, ne dérangez pas mon ami, il est mort de fatigue. C'est génial. Voilà. Donc l'avion décolle, à ce stade-là, tu peux, on y va progressivement, hein. Mark Lester y va progressivement, Schwarzy, il sort de l'avion, donc il arrache quelques parois, se fraye un chemin dans l'avion, puis descendra par le train d'atterrissage, et puis fera un saut de l'ange, pour atterrir dans un vieux marécage, quoi. Ce qui est dommage quand même aussi avec le Blu-ray, c'est qu'on voit souvent la doublure, voilà. Donc chose dont on se rendait pas compte à l'époque, hein, dans une VHS dégueulasse, hein, je vous ai partagé la VHS sur l'Instagram, mais voilà, on voit souvent la doublure, et j'ai remarqué même, parce que j'ai regardé ça hier soir, quand même, j'ai bien fait mes devoirs, que la doublure, on la voit le plus souvent dans les scènes de conduite. Voilà. Mais même dans des scènes de conduite où il n'y a pas de cascade. Ça se posait la question, moi je me suis dit, mais pourquoi, enfin je sais pas, il n'y a pas forcément de danger dans certains plans, pourquoi il ne conduit pas directement, peut-être qu'il n'avait pas son permis l'Autrichien à l'époque, hein. C'est peut-être ça la raison, enfin bref, voilà, c'est une petite interrogation que j'ai là-dessus. Donc à ce stade du métrage, donc il s'échappe, il règle sa montre en mode Parker Lewis, voilà, il sait que le truc il atterrit dans 12 heures, voilà, donc il a 12 heures en gros pour défoncer tout le monde et retrouver sa fille, avant que l'avion atterrisse. Parce que si l'avion atterrit et qu'on voit que l'autre il est mort, eh ben ils vont tuer sa fille direct, voilà. Donc là, il se met en tête de pister Sully, voilà, et ce qu'il faut savoir, parce que j'ai oublié de le dire, c'est qu'il avait dit à Sully que comme il était marrant, il tuerait en dernier, voilà. Ça, c'est de la punchline aussi. Sachez qu'on est en 85, hein, et à ce stade-là, Shane Black est pas encore arrivé. Voilà. On n'a pas eu l'arme fatale et tout ça. Donc on a déjà de la bonne punchline qui fonctionne bien, quoi. Donc il a promis, il lui a promis de le tuer en dernier. Il a promis aussi à Bennett, en VO, qu'il will be back. Donc il recycle un peu le scénar de Cameron. Donc nous, en français, ça, je vais revenir pour toi. Et on apprend que Bennett, quand il a su que c'était John Matrix, voilà, qu'on allait enlever et qu'on allait lui faire faire le sale boulot, et ben il a décidé de le faire gratos. Donc si c'est pas l'amour, ça, voilà, c'est pas de l'amour, ça, c'est pas du cœur à l'ouvrage. Vous rendez compte, le mec travaille gratos juste parce que c'est John Matrix. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc il a sauté de l'avion, etc. Et il piste notre ami Sully. Sully, c'est un abo, hein, il fait 1m20. Il se met à draguer, et ben le seul personnage féminin du film, qui est incarné par Rae Dawn Chong. Donc Rae Dawn Chong, c'est une actrice à la carrière un peu bizarre. Voilà. Il n'y a pas de logique, en fait, dans ses films. Voilà. Donc elle n'est pas spécialisée dans quelque chose. Donc Rae Dawn Chong, c'est La Guerre du Feu, c'est La Couleur Pourpre, c'est plein de films, c'est Darkseid, Les Contes de la Nuit Noire, c'est Crying Freeman. Voilà. Donc elle fait tout, Rae Dawn Chong. Donc il n'y a pas forcément de logique là-dedans. Mais ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on le voit dans le bonus du Blu-ray, mais on le comprend aussi à l'époque, ouais, c'est quand même le seul personnage féminin, donc le lead character de premier plan féminin. Et elle est black, et ça c'est bien, parce que voilà, c'était pas forcément une chose courante. Donc, Commando, chef-d'œuvre du film d'action, Commando, film militant aussi. Vous allez voir, vous allez venir, voilà. C'est peut-être une œuvre dramatique, voilà, c'est peut-être un film dramatique. Peut-être qu'on peut dire que Commando, c'est l'histoire d'amour entre un père et sa fille. Voilà, c'est beau quand même, voilà. Commando, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Commando, c'est un film où tu as de la peine pour les terroristes, parce qu'on leur fait très très mal. C'est voilà. Commando, c'est beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc revenons à nos moutons. Donc on a le personnage de Sully là, qui est peinard. Il va dans le centre commercial, il a fait son petit taf, voilà, il a un petit rendez-vous. Il en profite pour draguer de la pire des manières Rae Dawn Chong, qu'il envoie se faire foutre, voilà, à peu près globalement. Et du coup, bah, ça échappe pas à Schwarzy, hein, parce que bon, Schwarzy, c'est comme l'avait vu le général Kirby. Schwarzy, c'est un félin, c'est un chat. Il se faufile, on le voit pas arriver. Voilà, l'engin d'1m90 sur 120 kilos, on le voit pas arriver. Donc, et ça me fait penser à Dave Bautista dans Les Gardiens de la Galaxie 2 qui fait semblant d'être invisible en bougeant très lentement. Voilà. Donc en gros, voilà, Schwarzenegger, on n'y croit pas trop à son côté un petit peu je me faufile en silence. Voilà. Donc, le côté infiltration, c'est le mot que je cherchais, en fait. Donc du coup, on est au centre commercial, et... alors, je vais pas vous raconter tout le film, parce qu'il faut que vous le voyez. Donc, pour ceux qui ont déjà vu, ça vous fera plaisir, ça vous fera marrer d'écouter ça en bagnole ou tranquillement chez vous. Mais, voilà, on est dans le centre commercial, donc là, il voit que Rae Dawn Chong, elle intéresse Sully, et il demande à Rae Dawn Chong de jouer le jeu. Voilà. Ni vu ni connu, ils se connaissent pas. Elle est pas très très emballée quand même, hein, par ce truc là. Donc surtout qu'il lui pète sa bagnole, voilà, il lui vire un siège. Voilà, c'est génial, hein, le mec arrache le siège de la bagnole pour rentrer dans la bagnole. C'est une chose qu'on retrouvera aussi dans le Expendables 2. Il fera à peu près la même chose aussi. Je vous l'ai dit, Stallone, il recycle, hein, pas mal de choses de la filmo de son ancien adversaire. Voilà. Donc il arrache le siège de la bagnole, il le suivent, voilà, donc il commence à le suivre, etc. Puis se retrouve dans, comme je vous le disais, parce que j'ai un petit peu mélangé les pinceaux, il était dans l'aéroport, là après il se retrouve dans le centre commercial. Donc il se retrouve dans le centre commercial. Et Rae Dawn Chong, elle a pas du tout confiance dans le chêne autrichien, donc elle décide de le balancer aux flics. Et puis ben c'est des flics. Voilà, de centre commercial, c'est plutôt des vigiles, ils se font défoncer la gueule, voilà. Donc Sully voit qu'il y a Schwarzy, donc interdiction aussi qu'il aille, parce qu'à l'époque on n'a pas de téléphone portable, donc faut chercher une pièce et aller dans une cabine téléphonique. Ben il va dans la cabine téléphonique, enfin du moins il essaie, puis John Matrix, lui, il arrive, il arrache la cabine téléphonique avec le mec à l'intérieur. C'est génial. Quand je vous dis que c'est du grand cinéma, après bien entendu, hein, je vais pas vous dévoiler tous les trucs, hein, mais globalement C'est du bonheur, toutes les deux minutes il se passe un truc. Donc là il arrache la cabine téléphonique, et bien entendu, Sully lui dira, mais t'avais promis que tu me tuerais le dernier. Ben il a menti, voilà. Donc s'en suit une mort qui est assez géniale, voilà, avec le vieux son du mec qui tombe de la falaise. Donc voilà, C'est génial. Donc, Commando, c'est énormément de choses. Donc, Commando, c'est aussi un mec qui se bat contre un béret vert et qui dit qu'il bouffe deux bérets verts au petit-déj tous les matins. Voilà, c'est génial. Puis ça traverse le placo aussi quand ça se bat. Donc, voilà. Donc, contre Cook, par exemple. Commando, c'est quoi? C'est un mec qui a un stade du métrage. Quand il a découvert où était sa fille, il décide d'aller faire les courses. Et il fait quoi comme course? Ah ben, c'est pas compliqué, hein. Il va au surplus militaire du coin. Et puis au surplus militaire du coin, à ce stade du métrage, t'es à peu près à 45 minutes, c'est bien dosé, hein. On est en dessous d'une heure et demie, hein. Même en director's cut, même générique compris, en dessous d'une heure et demie, en dessous des 90 minutes. Donc à ce stade-là, le mec fait les courses, et toi, quand t'es minot, tu regardes ça, tu te dis, mais c'est génial. Le mec, il y va. Donc, alors t'es sur une bonne propagande aussi, du coup, sur les armes à feu. Bon, voilà, bon. Mais c'est tellement fait dans la joie et la bonne humeur qu'on va pas leur en tenir rigueur, et puis en même temps, l'amateur de films d'action, il est venu chercher ça. On n'est pas là pour déconner, bordel de merde. Et là, effectivement, on nous offre ça. Donc il va faire ses courses, voilà, tranquille. Bazooka, lance-roquette. Ce qui est intéressant avec ce film-là aussi, c'est que c'est vraiment un mode d'emploi pour aller éliminer le terroriste du coin. Moi, j'ai appris plein de choses, hein. Voilà. Donc quand tu regardes ce film, t'apprends énormément de choses. Comme vous apprenez énormément de choses sur la quête du Graal quand vous regardez Indiana Jones et la dernière croisade. Voilà. Donc qui a dit que le cinéma, ça rendait débile? Non. Voilà. Donc il fait son shopping, nickel. Voilà. Donc il chope un hydravion. Voilà. Et puis atterrit sur l'île. Et puis à ce stade-là, t'as Schwarzy, voilà, t'as le réal, t'as la prod, t'as tout, ça clignote. On te dit, là, on monte d'un cran. Voilà. À ce stade-là, il dit à Raiden Chung de rester dans l'avion. T'appelles Gérald Kirby, tu bouges pas. Le mec, il a pris des tenues de combat un peu. Et du coup, il va avec son petit avec son petit bateau gonflable, avec son petit canot de sauvetage. Et puis il est en slibard. Alors, moi, j'ai jamais compris quel était l'intérêt de ça. Il aurait pu changer à l'intérieur de l'hydravion. Où il aurait pu rester habillé et se changer sur la plage. Non, le mec est de suite en slibard. En même temps, Raiden Chung, c'est censé être le repos du guerrier dans ce genre de film. Donc, il faut qu'il lui en montre. Et en même temps, on est sur le chêne autrichien. Donc, voilà, on est venu voir du gars musculeux. Donc, le mec est en slibard, en mode... Voilà, oui, Moussa, il est slibard qu'il y a dans les compètes de musculation. Voilà. Donc, on voit la caméra, le cadre, bien comme il faut, en mode... Du coup, voilà, je vois tes épaules quand je rame, et effectivement, le mec, c'est une masse, voilà. Et là, elle arrive sur la plage, et là, t'as une scène filmée et montée, mais aux petits oignons, voilà. On utilise, parce que c'est souvent le cas, hein, pour accentuer les choses, donc musique guerrière de James Horner. Donc James Horner, on va plus le présenter, c'est quand même le mec qui a fait la BO, the best BO ever, scène d'Alien 2. Voilà, de James Cameron. Vous avez compris que j'aime James Cameron. Voilà. Donc, Alien 2, meilleur film du monde. Voilà. Donc, de toute façon, après le 2, il n'y a rien. Voilà, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'existe pas d'autres films. Et avant, il y a le 1. Le 1 était bien. Le 1 était un chef-d'œuvre, mais il y a eu le 2. Donc, le 2 a annulé le premier. C'est dommage, hein. Donc, compositeur de la meilleure musique de film du monde, qui est celle d'Alien 2. Donc, musique au poil, montage au poil, contre-plongée, et t'as le mec... à coups de bruitage, etc., qui est en train de se mettre de l'angle de camouflage, il agrafe les ceintures, il commence, le mec, à s'équiper en mode 3ème guerre mondiale, voilà. Il a toutes les grenades sur lui, le bazooka sur une épaule, des flingues en veux-tu, en voilà, des couteaux pour aller trancher du steak haché, etc. Là, si t'as pas le kiki tout dur quand tu regardes le film et tu te dis pas putain de merde, ça va envoyer, ben tu t'es trompé de film, voilà. Donc, à partir de là, l'avion atterrit, parce qu'on a oublié cette histoire, hein. Voilà, le compteur est arrivé à zéro, voilà, ils se rendent compte qu'il a pas fait le taf, et que leur pote est mort, voilà, et à ce moment-là, t'as Dané Daya qui dit, faut aller exécuter la gamine, puis t'as Bennett qui fait, ouais, voilà, qui dit, voilà, il est content parce que John, il arrive, en fait, il voulait pas que John, il fasse le taf, voilà, c'est la bromance, quoi, lui, il est là, il est là, avec son couteau, sa moustache, et il attend John, voilà, pour citer Bill Duke dans Predator, il veut se faire une petite fête, voilà, et là, John Matrix, il arrive, et sur cette île, ce qu'il faut comprendre, hein, sur cette île, c'est qu'il y a tout, hein. Il y a une forteresse, c'est un peu l'équivalent, de ces forteresses qu'on voyait dans les American Ninja. Là, vous remplacez les ninjas qui s'entraînent par plein de guerrieros sud-américains et à moustache. Alors, vous verrez que souvent, c'est les mêmes. Voilà, parce que du coup, les cheveux un peu en bataille et la moustache, ça permet de changer et de renouveler un petit peu les figurants, parce que dites-vous bien que là, quand vous regardez le film, à ce stade du métrage, vous êtes sur un record du monde, vous êtes dans le Guinness. Hein. Donc là, ok, hein, John Wick, ça envoie, ok, hein, John Wick, y a pas de souci, ils explosent les compteurs, ça arrive pas à la cheville de, ça arrive pas à la cheville de Commando. Lui, en 10 minutes, il anéantit une île, hein, une île avec les gens dessus. Donc il tue pas loin de 200 personnes, voilà, si on fait le coin. Donc on est sur un record du monde, là, officiel, voilà, c'est posé. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un avant et un après Commando, voilà. Donc c'est le branded du film d'action, voilà. Donc il arrive, et là, se déroule devant vos yeux, avec énormément de générosité et de plaisir, parce que vous en demandiez pas autant. Voilà, moi je me remets à la place du petit garçon que j'étais, et même de l'adulte qui regarde encore ça, j'en demandais pas autant, et c'est là, j'en ai la larme à l'œil, ça se déroule devant moi. Donc, et là, voilà, t'as l'ABCDR de comment tuer des guerrilleros. Voilà. Et là, avec tout ce qu'il a été cherché. Donc là, en termes, on va parler un petit peu, on va être un peu premier degré, on va être un petit peu dans l'artistique. En termes de fusil de Chekhov, ah, c'est respecté, hein. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est montré à l'écran est utilisé. Non, je veux dire, là-dessus, c'est exhaustif. Voilà. C'est-à-dire que chaque chose qu'il a pris dans le surplus militaire sera utilisée sur un guerrier house. Voilà. Et même plus. C'est là où c'est généreux. Donc c'est-à-dire que là, bon, à ce stade-là, il défonce tout le monde, il les fait exploser, il leur tire dessus, il les fait sauter. Donc on est vraiment quasiment, on a des scènes, quand vous voyez les guerrilleros qui se font défoncer, on est presque dans un Sentai, vous savez. Donc c'est-à-dire avec les panou-panou qui sautent dans tous les sens, ouais, c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est ça. Au bout d'un moment, on arrive à le toucher, puis il a plus trop d'armes quand même. Ben ouais, parce qu'il y a quand même un certain réalisme. Voilà, c'est pas la carotte de Bugs Bunny, son flingue. Voilà, elle est pas éternellement toujours au même niveau. Et là, on arrive sur la scène la plus jouissive du métrage. Pourtant, il y en a, hein. Je veux dire, on en a écumé. Hein. Il se retrouve enfermé dans un cabanon de jardin. Et là, mort là, pour moi, c'est the must. Donc, c'est-à-dire que là, de héros de film d'action, Schwarzenegger devient carrément un boogeyman. Il est l'équivalent d'un Jason Voorhees. C'est-à-dire que t'es là, après, tu dis « Non, 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 les terroristes, les guerrilleros, là, non, non, n'y allez pas, c'est pas bien !» Voilà, donc, et là, eh ben, on y va franco, puis on tombe dans le gore. Hein. Donc, dans l'ordre, coup de fourche, on prend aussi, parce que, pour ceux qui font un peu de bricolage, voilà, parce qu'on est des quadras, on est un peu des vieux, hein, voilà, donc vous devez y penser, hein, quand vous voyez les recharges pour votre scie circulaire, vous pensez à Commando. Donc voilà, je vous le dis, une scie circulaire, ça sert pas qu'à faire du bricolage, ça sert du coup à trépaner l'adversaire, et puis à lui ouvrir la carotide. Donc là, la scie circulaire, donc on trépane, on ouvre la carotide, on égorge, hein, si on préfère. Hache, ben on coupe un bras directement avec le guerrilleros qui a le temps de voir le résultat et que ça lui fait pas plaisir, voilà, donc vous avez mal pour lui. Donc on coupe des bras, on pète des couilles aussi avec la hache, c'est génial, tout sert, voilà, tout sert. Donc Nicolas le jardinier, quoi. Donc voilà, pour moi c'est the show must go on, voilà, donc c'est génial. Donc du coup, à ce stade-là, l'île est quasiment éradiquée. Reste plus que un ou deux guerrilleros planqués qui se font défoncer. Dan et Daya, il justifiera un petit peu son rôle de chef suprême en échangeant quelques coups de feu. Ça l'empêchera pas de se faire exploser au canoncier. Voilà. Et alors, il meurt deux fois. Moi, j'aime beaucoup aussi ce côté du film d'action des années 80, c'est que mourir deux fois, c'est toujours cool. C'est-à-dire que il se prend au moins trois coups de canoncier et il se défenestre. Voilà. Ça lui, avec un vieux cri, comme ça, ça lui permet, ça permet d'être sûr. Ouais. Là, on n'est pas dans un slasher. On n'est pas avec Michael Myers où il se relève 20 fois. Non. Là, on est sûr. Voilà. Donc trois coups de canoncier et défenestration, t'es mort. Voilà. Donc entre temps, j'ai oublié de le dire quand même. Petite action en parallèle. Il devait exterminer la fille de John Matrix. Mais elle est maligne parce que c'est la fille de John Matrix. Et puis elle les avait prévenus déjà dans le film que voilà, son père allait les exploser. Elle a pas menti en même temps. Voilà, c'est annoncé, elle a pas menti. Donc du coup, elle s'était échappée de sa pièce et on a Bennett qui la poursuit avec un couteau. Imaginez un peu cette scène aujourd'hui avec du recul là, dans les années 2020, là. Vous savez là, où tout le monde est choqué. On a quand même un vieux monsieur à moustache qui poursuit une petite fille dans les couloirs. Je dis ça, je dis rien. Incarné par Vernon Wells. Donc ça amène son petit côté sympa. Voilà. Donc du coup, John Matrix, il arrive, ça se finit dans une chaufferie. Hein. Alors pour la petite histoire aussi, ça se finit dans une chaufferie parce qu'il n'y a plus trop d'argent. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, rien ne vaut un bon vieux mano à mano années 80. Vous savez, là où on faisait pas, où ils faisaient pas tous du kung-fu, etc. Ça se mettait des bonnes beignes, quoi. Voilà, des bonnes gifles. Puis ça se battait aussi avec les accessoires qui est un petit peu autour dans la scène. Donc du coup, ils arrivent à se retrouver. Et du coup, vous avez cette scène fabuleuse. Vous avez le personnage d'Aïssa Milano qui est là. Papa, papa, c'est toi, papa. Et là, vous avez Bennett qui arrive. C'est pas papa. C'est génial. Il est génial, Vernon Wells. Il est génial. Il évolue dans un film à lui en parallèle. Et donc, et c'est là que le personnage de Schwarzy fait un peu de psychologie. Voilà, il lui dit, allons, Bennett. T'as pas besoin de ce flingue, t'as pas besoin de la gosse, c'est moi que tu veux. Et là, vous voyez le jeu d'acteur, vous voyez le Vernon Wells qui s'anime comme ça. Ouais, j'ai pas besoin de ça, je te veux, John. Il crie comme ça, mais il est dans l'orgasme, le mec. Non, c'est un amour, impossible. Ouais, on a envie de lui dire, Bennett, il t'aime pas, John. Voilà, c'est un amour impossible, mais il a vraiment envie de lui faire du bien et du mal à John. Donc mano à mano, pour que ça dure un peu, on va essayer de te faire croire quand même que Freddie Mercury, il peut mettre une beigne à Monsieur Univers, bon pourquoi pas, voilà. Et... Donc c'est génial, et il a la pire mort quoi, donc c'est-à-dire que, voilà. On avait compris hein, qu'on était dans les sous-entendus sexuels, etc. Image phallique ultime, il lui envoie un vieux tuyau, quoi. Voilà. Un vieux tuyau qui crache de la vapeur. Et on a Schwarzy qui lui balance en VF. Crache là ta vapeur, vieux salopard. Voilà, est-ce qu'on est sur la symbolisation d'une éjaculation finale du personnage de Vernon Wells? On en est à... Voilà, on... Il n'y a qu'un pas, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on ressort de ce film. Et la banane, quoi. Voilà. On a assisté au film d'action ultime. Parce que c'est ça, je suis en train de regarder l'enregistrement. Moi, je suis déjà à 50 minutes sans montage. Voilà, j'ai envie de vous le dire, mais en même temps, c'est commando, bordel. Donc voilà, je comprends pourquoi vous avez voté pour ce film-là. Voilà. Le film d'action ultime. Et puis voilà, tout le monde repart tranquillou. Alors, bien entendu, le colonel Kirby, il arrive à la fin avec ses hélicos. Un petit peu en mode Jurassic Park 3, quoi. Après la guerre, quoi. Et puis, il regarde comme ça. Puis tout est normal, hein, parce que ce qu'il faut savoir quand même, si on fait les comptes un peu, le mec il a anéanti une île, il a défoncé des gens du coup aux États-Unis, il a volé un surplus d'armes, il a fait péter énormément de choses, il a dessoudé des flics, des vigiles. Putain, le colonel Kirby qui regarde, qui fait « Tu nous as laissé quelque chose quand même, Matrix ?»« Mais ouais, qu'est-ce que tu nous as laissé quelque chose à nous mettre sous la dent ?»« Non, que des morts. J'ai très envie de reformer votre unité. » Ben oui, mais c'est normal, mais tout le monde fait ça. Personne ne va le prendre pour un psychopathe. Le mec a anéanti une île, ben oui, on va reformer son unité. Mais le mec, attends, c'est spécialiste du travail bien fait. C'est le Gordon Ramsay de l'armée, le mec. Ben oui, il envoie. Donc ouais. Et donc sur ce, il lui dit non, c'est pour moi, je suis à la retraite. Et ouais. Et ouais, et puis ça se finit comme ça, avec un bon vieux morceau de Hard FM des familles, hein, que je vais pas oublier de vous mettre hein, pour conclure ce podcast, hein, parce que j'ai entamé le démarrage de ce podcast avec un extrait, parce que même la bande-annonce, elle est géniale, un extrait de la bande-annonce FR, et puis on finira sur du bon vieux Hard FM, parce que c'est comme ça. Donc voilà, moi, Commando, je l'aime d'amour, ce film. Je ne pourrais jamais en dire... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. C'est un chef-d'œuvre de tout. C'est pour ça que les films d'action aujourd'hui, un Tyler Rake, Ouais, j'ai pris du plaisir, Tyler Reich. Ça m'a fait rigoler. Mais ça arrivera jamais à la cheville de... Ah oui, c'est mieux filmé, tout ce que vous voulez, mais il y a tellement de folie dans Commando que tu peux pas, c'est le film ultime. Voilà, ça a été fait en 85 et ça s'appelle Commando. Donc souvent, j'aime bien conclure ces vérifs de que reste-t-il ? Que reste-t-il de Commando ? Bah, déjà, cette vérif, beaucoup d'amour aussi. Parce que c'est un film qui est régulièrement cité comme un fleuron, un représentant des années 80. Voilà. Donc ça reste le film ultime. Il est cité. Donc n'importe quel film d'action qui est fait aujourd'hui, donc même un Tyler Reich, va citer du Commando. Quand il lance la franchise des Expendables. Je suis désolé, hein, je l'aime beaucoup le premier Expendables, mais c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime beaucoup. C'est parce que c'est une ressucée de Commando, quelque part. En moins fou, hein. Voilà. Donc voilà, elle est là, voilà. Il est là l'héritage de Commando. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un réalisateur se lance dans un film over the top comme ça, et même John Wick doit Commando quelque part. Pas dans le style, mais dans son scénario Ticket de métro. Voilà. Donc à John Matrix, on lui enlève sa fille. À John Wick, on lui tue son chien. Voilà. Donc il y a une forme d'hommage. Il est où l'héritage aussi de Commando ? Commando, en fait, on lui doit aussi le beat'em all dans le jeu vidéo. Faut pas l'oublier, ça. Donc voilà. Les doublés dragons, les final fight, le personnage d'Agar, il vient d'où d'après vous ? Voilà. Donc cette progression, parce que voilà, il pose des bases. Voilà. Cette progression en niveau. Dans les décors, voilà, dans chaque décor, il y a un boss de fin de niveau. Puis après, il y a le boss ultime. Voilà, c'est le beat'em all. Il pose les bases du beat'em all. Donc Commando, c'est voilà, ça pose les bases de tout ça, du film d'action moderne. Ça pose les bases du beat'em all au jeu vidéo. Voilà. Alors, je me suis marré dans les bonus parce que Mark Lester. Alors moi, je l'aimais beaucoup sans le connaître. Mais là, je l'aime d'autant plus. Le mec, il est bon. Ce mec te dit tranquille, voilà, que Commando, il pose les bases. Voilà. Sans Commando, il n'y a pas Predator. Le mec est tranquille, quand même. T'expliques que le film de McTiernan, il serait pas ce qu'il est s'il avait pas fait Commando. J'ai envie de vous dire, il vous le dit avec un tel sourire et une telle mauvaise foi que ça fait plaisir, quoi. Ouais, grave, mais quelle connerie. Ouais. Le Predator de McTiernan, c'est encore un autre monument, c'est autre chose. Voilà. Je vois mal McTiernan se dire, Commando a posé des bases, nous allons faire comme ça. Rien à voir. Voilà, il y a des similitudes, mais c'est pas basé là-dessus. Donc voilà, l'héritage, il est là. Voilà. Donc c'est le film ultime, on le sait. Il revient sur le devant de la scène, voilà. Certains lui rendent hommage, voilà. Que dire sur ce Blu-ray Director's Cut ? Alors, faut pas s'emballer non plus, hein. C'est Blu-ray Collector de Major, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, édition 20th Century Fox. Alors, le Master est propre. C'est pas non plus la folie. Donc, on sent aussi que. On va se jouer les années laser. On sent qu'il y a du grain un peu trop. Voilà. Dans les scènes de nuit, dans certains plans. Dans certains plans sous-exposés. Donc, on sent le grain. Alors, c'est pas un grain qui est plaisant. Donc, mais bon, c'est présent. Après, globalement, 90% du temps, c'est quand même assez propre. La Director's Cut. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Director's Cut ? Bon, elle est dispensable. Alors, ça fait toujours plaisir de te dire, ouais, moi, j'ai Commando en Director's Cut. Voilà. Donc, cette Director's Cut, elle rajoute 1 minute 30 à peu près, grosso merdo, au métrage d'époque, à la version sale. Et du coup, c'est juste des dialogues entre Ray Danchong et Schwarzy. Donc, sachez qu'en VF, ça n'a pas été doublé en VF. Donc, ça bascule à ce moment-là en VO sous-titré. Et ça permet... Ça permet de lever le voile un petit peu, parce que oui, on pouvait se poser la question, oui, ouais, le mec, il élève seul sa fille, elle est où la mère ? Elle est où la mère ? Ouais, ils l'ont oublié dans le scénar. Non, voilà, il y a un vieux passage où il dit qu'elle est morte en couche. Ouais, ça rajoute dans le pathos un petit peu. Voilà, du veuf, quoi, vous voyez ? Et il en fallait pour tout le monde à l'époque. Parce que ta mère, quand elle était plus jeune, elle allait voir Schwarzenegger au cinéma. Elle voyait en slibard se changer et aller buter voilà, il amenait la sécurité. Voilà. Et en même temps, il est veuf. Waouh, comme c'est génial, il se bat pour sa fille. Donc c'est des vieux trucs too much, quoi. À noter aussi, quand même, alors souvent, tout le monde en a parlé à tort, mais bon, quand même, je le sais aussi, donc il faut en parler. Ça devait avoir une suite. Ça en aura pas, parce que Schwarzenegger n'aura pas forcément envie.
Voilà, vous pouvez le voir aussi hein, pour Predator, hein. Voilà, Schwarzy, il revient pas forcément dans les suites, à part dans les suites de Cameron. Elle est pas folle la guêpe aussi. Donc voilà, ça devait avoir une suite, ça le sera, ça, voilà, ça en aura pas. Il y a quand même un G qui a été écrit, et ben ça deviendra Piège de Cristal. Donc un véhicule pour Bruce Willis, qui lancera la carrière cinématographique de Bruce Willis, et qui sera l'inverse en fait d'un personnage comme Schwarzenegger dans Commando. Voilà. Donc du coup ils ont bien recyclé le truc, ils en ont fait quelque chose de vraiment original. Moi j'aurais aimé le voir, hein, ce John Matrix hein, péter la gueule de Hans Gruber, ça aurait été un autre film, hein. Ça aurait été autre chose, mais j'aurais aimé voir cette chose-là. Donc vous l'aurez compris, voilà, vous aviez voté, vous l'avez eu, vous avez votre vérif sur Commando, merci, parce que ça m'a permis de revoir Commando, peut-être pour la troisième fois cette année, hein, ça fait toujours plaisir. Donc c'était le 12e épisode de la vérif, et vous l'avez compris, en écoutant à nouveau ce podcast, ici, à 7ème dimension, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute.
De télévision jusqu'à la prochaine émission de
7ème dimension en mode podcast.